Vivre FM, podcast. 11h midi sur Vivre FM, la vie des entreprises. Annelise Farcoa.
Les ESAT, établissements et services d'aide par le travail, permettent à une personne handicapée d'exercer une activité dans un milieu protégé si elle n'a pas acquis assez d'autonomie pour travailler en milieu ordinaire. L'orientation en ESAT décidée par la MDPH, Maison départementale des personnes handicapées, vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Alors, les entreprises sont-elles conscientes des avantages qu'elles peuvent avoir à s'adresser à un ESAT? Les freins persistent-ils encore du côté des responsables des achats des entreprises? Et comment les inciter davantage à faire appel au milieu adapté, protégé et de l'insertion? C'est notre sujet de ce matin dans la vie des entreprises, puisque je reçois Dominique Dupaty de Clam. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la fondatrice de Handi Réseau qui propose un accompagnement dans la mise en œuvre d'une politique achat ESAT, EA et SIA. Merci d'être avec nous ce matin à nouveau pour nous détailler les activités d'Handi Réseau et nous parler du baromètre que vous venez de réaliser sur le thème levier de motivation des prescripteurs pour faire appel au secteur du travail adapté et protégé. Belle matinée à vous qui nous écoutez.
La vie des entreprises jusqu'à midi sur Vivre FM.
Bonjour à tous et bienvenue dans la vie des entreprises. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et nous parlons ce matin de la relation qu'entretiennent les entreprises et le secteur protégé et adapté en compagnie de Dominique Dupaty de Clam, fondatrice du réseau Handi Réseau. Alors on va parler tout au long de l'émission des activités de ce réseau et surtout du baromètre que vous venez de lancer. Mais avant cela, un petit mot sur Handi Réseau, Dominique.
Alors Handi Réseau, c'est un cabinet qui fait du conseil principalement en achat, mais pas que, puisque maintenant nous faisons également de l'accompagnement de personnes handicapées, principalement dans l'emploi, en fonction des difficultés qu'elles peuvent rencontrer.
Mais uniquement dans le secteur adapté et protégé?
Non, tout à fait dans le milieu ordinaire également. Mais ça, voilà, c'est sorti en début 2016, parce que j'ai intégré une personne qui est vraiment spécialisée sur ce sujet et qui est éthologue. L'éthologue, c'est la science du comportement. Et donc, voilà, ça répond vraiment aux problématiques des entreprises.
Mais au départ, quels étaient les objectifs de Handi Réseau?
Les objectifs d'Handi Réseau, c'était, comme vous l'avez dit, le fait de pouvoir aider les entreprises dites du secteur ordinaire non aidé à construire une feuille de route et vraiment faire un diagnostic, mais vraiment pouvoir travailler avec le secteur adapté et protégé de manière assez pérenne et de manière aussi, bien sûr, très éthique. D'utiliser les connaissances d'Handi Réseau en matière de sourcing, puisque nous sourçons les entreprises adaptées, les ESAT in situ, et donc d'accompagner les acheteurs, puisque je vous le rappelle, moi j'ai été directeur des achats Europe dans l'entreprise Cernam.
Donc vous connaissez bien, effectivement. Et effectivement, ce que vous souhaitez faire, c'est faire comprendre aux entreprises ordinaires, comme vous dites, qu'il peut y avoir une façon plus douce de faire rentrer le handicap dans l'entreprise en faisant appel au secteur adapté et protégé, en fait.
Exactement. On sait que quand on fait appel à un ESAT ou une EA, on sensibilise les équipes en interne de manière très opérationnelle, puisqu'elles se rendent compte que des personnes handicapées peuvent faire le travail qu'elles leur demandent. Et donc, évidemment, elles savent que quand elles intègrent une personne handicapée, pourquoi ça ne serait pas la même chose faite par l'emploi direct.
Alors justement, elles ne le savent pas forcément. Les responsables des achats, les donneurs d'ordre ne sont pas encore vraiment informés ou n'ont pas encore vraiment le réflexe de faire appel à ce secteur.
Il y a eu beaucoup de progrès dans les 10 dernières années. Enfin, nous, on existe sur le marché depuis 2009. Et depuis 2009, on a vu vraiment un énorme changement. Oui, un très gros changement.
Bonne nouvelle.
Bon, par contre, justement, l'intérêt de développer ce baromètre, on s'est rendu compte que les missions handicap avaient été très investies par le sujet. Donc, c'était elles qui avaient porté le développement du secteur adapté et protégé dans leurs entreprises. Après, c'était les achats qui avaient pris le relais. Donc, maintenant, évidemment, les directions achats et puis les missions handicap travaillent en général, ensemble. Mais après, le problème, c'était les prescripteurs. Et donc, moi qui étais directeur des achats, j'ai été intéressée par le fait de lancer ce baromètre qui n'existe pas, qui est le premier baromètre sur le secteur adapté et protégé, sur les leviers de motivation des prescripteurs. Et là, ça nous a donné effectivement beaucoup de réponses qui nous ont passionnés. Et on se rend compte maintenant, Andy Réseau, de toute façon, se développe de plus en plus en relation avec les prescripteurs.
Alors, on va les détailler, ces réponses, déjà les questions et les réponses, mais est-ce que vous avez été surprise, vous, en lisant ces réponses? Ou est-ce que ça vous a conforté dans ce que vous saviez déjà?
Alors, les deux, parce que certaines choses ont été évidentes. Quand on nous disait, il faut sensibiliser, faire connaître le secteur, casser les stéréotypes, bien sûr, tout ça, on le savait, puisque dans nos missions, on se rend bien compte de ce qui se passe. Par contre, on a eu effectivement des choses qui nous ont énormément étonnés, comme par exemple le fait que les prescripteurs soient toujours en surdemande vis-à-vis de ces établissements, c'est-à-dire leur demande de la surqualité, les surveillent de manière beaucoup plus que
s'ils font appel à une entreprise ordinaire.
Ah, mais bien plus. Il y a des niveaux justement d'exigence, de qualité absolument invraisemblables. Et ça, c'est quelque chose qui nous a particulièrement surpris.
Et qui doit mettre une pression encore plus importante sur le dos des directeurs, des ESAT et des EA.
Oui, et puis sur le dos aussi des prescripteurs des entreprises classiques, parce qu'elles se sentent obligées de vérifier le travail de ces établissements-là, alors qu'en principe, si on les accompagne bien en amont, on devrait les accompagner aussi tout au long de la prestation, mais pas plus qu'une PME, TPE du milieu ordinaire.
Alors, traditionnellement, les entreprises adaptées proposaient des prestations assez classiques de jardinage, de traiteur, d'emballage. De plus en plus, des AT et d'EA d'entreprises adaptées innovent dans de nombreux domaines. Vous avez des exemples à donner parce qu'en plus, vous avez organisé les trophées Andy Réseau et vous avez eu de belles histoires, de belles aventures et peut-être des exemples à nous donner là.
Alors, récemment, il y a un exemple qui nous a beaucoup frappé. C'est un entrepreneur qui a créé une librairie qui s'appelle All Livre et qui donc permet à des personnes handicapées de faire des tâches complètement différentes, de monter en compétences, d'être aussi en relation avec des livres parce que souvent, certaines personnes qui sont handicapées psychiques sont très en demande de livres. Et vraiment, All Livre, c'est une réussite formidable. On a accueilli le directeur qui est venu nous témoigner de son expérience à Andy Réseau, au trophée Andy Réseau Femmes en EA. Et c'est vrai qu'on a de plus en plus d'histoires comme ça à raconter.
Donc, ça veut dire que toutes les personnes qui travaillent dans cette librairie sont en situation de handicap?
Oui, enfin, en tout cas, au moins 80%. Hein, vous savez
comme c'est la loi.
Voilà, toutes les EA doivent avoir 80% de personnes en situation de handicap dans leur production. Et donc, effectivement, au livre est un succès extraordinaire parce qu'on se rend bien compte qu'ils sont en train de passer en plus des accords avec des entreprises qui font de l'expédition, par exemple, par Internet. Et donc, eux commencent à se mettre à ce genre de choses et deviennent des sous-traitants du type Price Minister, vous voyez. Donc vraiment, ça casse aussi beaucoup ce genre de modèle, casse beaucoup le modèle uniquement de la personne qui met des boulons dans un petit sac en plastique. Heureusement qu'il y en a encore, heureusement que les entreprises en demandent encore. Il faut que les entreprises réimportent leur demande parce qu'il y a des établissements qui ont besoin de ce genre de prestations pour justement faire travailler leur personnel handicapé.
Mais c'est aussi très important que des entreprises adaptées proposent des activités en direction du public, c'est-à-dire que se développent de plus en plus des hôtels, des restaurants, des agences de communication et effectivement des librairies comme ça, parce que ça valorise le travail des personnes en situation de handicap puisqu'ils sont en relation directement avec le public.
Oui, puis en plus, ça donne la possibilité aux personnes en situation de handicap d'intégrer une EA parce qu'ils ont certaines envies. Certains ont envie d'intégrer une agence de communication, d'événementiel, de faire vraiment un travail qui les satisfasse. Alors qu'avant, bon, c'était peut-être beaucoup plus restreint puisque le champ des entreprises adaptées et des ESAT, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que les ESAT aussi
innovent
hein, beaucoup, ça c'est sûr. Et c'est vrai que ça, c'est important aussi pour les personnes handicapées qui vont intégrer ces établissements-là.
Donc le secteur se dépoussière, c'est grâce au directeur, aux responsables de ces établissements, mais c'est aussi peut-être grâce à des responsables d'entreprises ordinaires qui ont proposé des activités nouvelles et qui ont comme ça aidé à monter en compétences.
Exactement, donc là on en revient tout à fait à notre baromètre. J'avais interviewé le directeur des achats d'Aéroports de Paris, et donc, il m'avait raconté quelque chose de très intéressant. Il m'avait dit qu'ils avaient développé, grâce à un prescripteur qui n'était en plus pas du tout sensibilisé au secteur, donc il s'y était intéressé, ils avaient développé dans un aérogare, donc vous savez, des conditions techniques de sécurité extrêmement importantes, une prestation de travaux. Et que donc cette prestation de travaux vraiment donnait toute satisfaction à l'entreprise ADP. Et cette prestation de travaux, il souhaitait la mettre en transverse, c'est-à-dire la proposer à d'autres aérogares. Donc ça, c'est ce qu'on a vu aussi dans le baromètre Handiréseau. Baromètre Handiréseau, on fait trop de choses, c'est pour ça, je me mélange. Dans le baromètre Handiréseau, on se rend compte qu'il y a des nouvelles pratiques, c'est-à-dire des gens qui travaillent en mode projet, alors qu'en général, les acheteurs travaillent en mode famille. Et c'est ça qui est très intéressant, parce qu'on se rend compte que les choses bougent et que parfois, c'est plus facile de travailler en mode projet parce que vous avez des travaux avec des familles qui se complètent, comme par exemple quelqu'un qui veut faire de la gestion électronique de documents. Un acheteur s'occupe de cette famille-là, mais ne va pas s'occuper d'envoyer des documents en routage. Eh bien, en mode projet, on arrive justement à créer des projets avec le secteur adapté et protégé qui va permettre aussi une entreprise adaptée ou un ESAT de développer d'autres types de créations en interne et proposer ça aussi à d'autres de leurs clients.
On va faire une pause en musique et juste après, on développera vraiment le baromètre que vous venez de lancer sur le thème levier des motivations des prescripteurs pour faire appel au secteur du travail protégé et adapté. À tout de suite.
La vie des entreprises, jusqu'à midi sur Vivre FM, Alice Farcoa.
Dans quelques minutes, vous retrouverez votre chronique coaching les 3 minutes pour l'emploi. Mais pour l'instant, nous sommes toujours dans la vie des entreprises. Si vous arrivez en plein milieu de l'émission, sachez déjà qu'on commence à 11h. Donc la prochaine fois, soyez à l'heure. Et nous sommes en compagnie de Dominique Dupaty de Clam, fondatrice du réseau Handiréseau. Nous parlons ce matin des relations qui existent entre les entreprises et le secteur protégé et adapté. Et la façon dont Handiréseau peut aider à fluidifier ce lien. Alors, Dominique, vous avez lancé un baromètre levier de motivation des prescripteurs pour faire appel au secteur du travail protégé et adapté. Vous ne pouviez pas trouver un truc un peu plus simple, non, Dominique, c'était...
Malheureusement, on n'a pas trouvé plus simple parce que tous les mots nous paraissaient importants. La genèse de ce baromètre, hein, c'était... On sait très bien, en tant qu'ancien acheteur, qu'il ne suffit pas d'être acheteur, justement, pour développer le recours au secteur adapté et protégé. Il nous faut vraiment travailler avec les prescripteurs. Alors, qu'est-ce qu'un prescripteur ? C'est un service en interne qui a besoin d'un produit ou d'un service. Et donc, comment il fait ? Il va s'adresser, en général, à son service achat pour l'aider à trouver et le bon fournisseur et à décortiquer le cahier des charges qui va servir à faire la consultation, que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public. Et donc, justement, les acheteurs sont de plus en plus formés au secteur adapté et protégé. Par contre, les prescripteurs ne le sont pas encore complètement. Et il nous avait semblé intéressant, justement, de faire ce baromètre. Quels sont les leviers de motivation des prescripteurs pour faire appel au secteur adapté et protégé.
Alors, comment est-ce que vous vous êtes pris pour lancer ce baromètre ? Vous avez interrogé qui ?
Alors d'abord, on s'est mis en relation avec Décision Achat, qui est un de nos partenaires sur Handiréseau Femmes en EA, et dans un magazine dans lequel moi j'écris personnellement depuis 2012. Et donc, Décision Achat nous a dit que ça les intéressait beaucoup. Et ce baromètre, d'abord, a pu voir le jour grâce à ce magazine-là, il faut bien le souligner. Et puis ensuite, nous avons décidé de faire ça en deux temps. Un temps par le biais d'Internet, c'est-à-dire par une étude via ce qu'on appelle SurveyMonkey, hein, où 50 réponses nous ont été données, 50 réponses exploitables. Et ensuite, on a interrogé des acheteurs, des directeurs achats, des directeurs de mission handicap, mais également des prescripteurs. Et ça, ça a été important. Et donc, on a eu environ, ce baromètre contient...
Des responsables de mission handicap aussi?
Oui, responsables aussi. De mission handicap, tout à fait. On avait envie de ce mixte parce qu'il nous a paru beaucoup plus riche que si on interrogeait que des prescripteurs ou que des acheteurs. Donc, la réponse a été 80 personnes, donc 80 réponses très qualifiées, nous ont été données sur un certain nombre de questions, évidemment en relation avec ces leviers-là. Et donc, on en a trouvé des réponses et classiques qui ne nous ont pas forcément étonnés et tout à fait novatrices.
Alors, quelles ont été les entreprises que vous avez interrogées? Est-ce que c'était essentiellement des grands groupes ou est-ce que vous avez aussi interrogé des PME?
Alors, il nous a paru vraiment intéressant d'interroger aussi les PME parce que souvent... ce sont les grands groupes qui sont un peu qui montrent un peu l'exemple, hein, puisque
elles sont plus au fait.
Voilà, exactement. Puis ont plus de demandes, de besoins d'achat en général que des plus petites entreprises. Mais il ne faut pas négliger les petites entreprises, et c'est pour ça que nous on a fait appel à une trentaine de PME, et il nous a semblé vraiment intéressant de les interroger sur ce sujet-là. Et ces PME allaient de 8 à 100 salariés.
Effectivement. Donc, vous avez lancé vos questions sur Internet, j'imagine, et les gens ont répondu en mettant juste quelles étaient leurs fonctions, sans en dire plus. C'était assez anonyme.
Elles pouvaient donner leurs fonctions et surtout leur nom et le nom de leur entreprise, mais elles n'y étaient pas tenues. Mais on a été assez étonnés parce que, en général, à 90%, les gens ont joué le jeu et ont donné le nom de leur entreprise et le nom de leur et leur nom.
Alors, comment vous avez sélectionné les questions que vous avez posées à toutes ces personnes?
Alors, on y a beaucoup travaillé.
Oui,
hein.
Ça ne doit pas être évident, justement.
Non, c'était pas évident. On y a beaucoup travaillé.
Pas trop, mais quand même suffisamment pour avoir une bonne idée.
Voilà. Et surtout, bon, c'était vraiment des questions qui pouvaient être mesurables. C'est ça qui était compliqué. On est revenu vraiment plusieurs fois sur le métier. On y a travaillé au moins un mois en amont pour laisser reposer, décanter, interroger aussi certains de nos clients qui nous ont donné d'autres idées. Et bon, je pense que ces questions-là seront peut-être à reprendre parce que nous allons développer ce baromètre tous les ans. Nous allons refaire le même baromètre.
D'accord. Hein, maintenant que vous l'avez lancé une fois, vous voulez savoir si ça évolue.
Et ça, forcément, ça va évoluer. Ça va évoluer et donc on a envie de continuer à interroger et peut-être ces mêmes entreprises et peut-être d'autres. Ce serait peut-être intéressant maintenant de croiser avec d'autres. On a tenté de garder une espèce d'ouverture vers des secteurs très différents, comme par exemple l'énergie, la banque, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu l'immobilier, on a eu le luxe, on a eu la grande distribution, le secteur de la téléphonie, Il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup de types de secteurs ouverts parce qu'on n'a pas voulu se cantonner uniquement à un seul secteur.
On continue à parler du baromètre dans la suite de l'émission, mais pour l'instant, notre coach vient d'arriver dans le studio, donc on lui laisse la parole. Une question, une réponse concernant l'emploi, il répond à nos auditeurs. À tout de suite. Bertrand nous a envoyé un mail. Il est bénéficiaire de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, la RQTH. Il a envie de se reconvertir professionnellement. Il a 32 ans. Il a entendu dire qu'il pouvait entamer une formation en alternance. Frédéric Loto, vous êtes le producteur de Handi Today. Normalement, une formation en alternance est réservée pour les moins de 26 ans, n'est-ce pas?
Normalement, oui, mais pas pour les détenteurs d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Là, il n'y a pas de limite d'âge. Donc, à 26 ans, Bertrand est tout à fait éligible.
Il a 32 ans.
32 ans, pardon. Est tout à fait éligible pour entrer dans une formation en alternance. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui raffolent de ça parce que c'est une manière pour elles de découvrir progressivement les gens, de les former à leur main, comme on dit. Et donc d'avoir en fait du personnel sur mesure, plus qualifié évidemment, pas forcément à un coût très élevé pour l'entreprise, parce que l'alternance est évidemment rémunérée, mais en l'occurrence c'est pas forcément un salaire tel que quelqu'un qui va être embauché à 32 ans en CDI directement avec mettons 5 ou 6 ans d'expérience. Donc, c'est vraiment une très bonne manière pour l'entreprise de faire entrer les gens. Donc, Bertrand a toutes ses chances à 26 ans encore, plus peut-être qu'à 50, forcément. On ne va pas se voiler la face, mais à 26 ans, il a encore toutes ses chances.
Il a 32 ans.
À 32 ans, pardon, j'insiste. Je vieillis.
Alors, si on parle plus largement de formation, l'objectif est bien de se former tout au long de la vie et de s'adapter rapidement, de pouvoir retrouver un poste à tout moment de sa vie, voire même de changer de carrière. C'est très important de continuer à se former tout au long de la vie.
C'est important de se former même si on ne change pas de carrière, parce que les métiers évoluent. Si vous voyez les métiers qui existent aujourd'hui, qui ont le vent en poupe et qui vont peut-être dominer les offres d'emploi dans 2 ans ou 3 ans, ce sont des métiers qui bougent quasiment tous les 6 mois.
À ce point-là.
Et pour lesquels il faut vraiment avoir des formations à des langages informatiques, par exemple, qui évoluent très très rapidement. Donc oui, il faut se former en permanence, si possible. Et puis aussi, on peut changer de vie, parce que je ne crois pas qu'aujourd'hui, on puisse rester ou on ait intérêt à rester 40 ans ou 50 ans dans la même entreprise. Ne serait-ce que pour l'ouverture d'esprit, c'est pas mal aussi à la fois soit de prendre des risques, soit de changer, soit d'entreprendre, tout simplement.
Et puis on le sait, il peut aussi arriver des accidents de parcours qui nous obligent à changer de vie professionnelle.
Tout à fait. Si on est conducteur de bus et qu'on a un problème aux yeux et avec une maladie évolutive, il est évident qu'à un moment, il faut songer à un changement de carrière. Et il vaut mieux l'anticiper et en faire un plaisir, une stratégie, plutôt qu'une mauvaise surprise et une déception.
La RQTH est fondamentale. Je ne me lasserai pas de le dire autour de moi. La RQTH est un véritable statut. Donc surtout que les gens n'hésitent pas à demander cette RQTH.
Il y a encore des craintes. Hein,
oui, il y a des craintes.
De la demander.
Mais surtout au niveau des jeunes. Hein, donc ça, c'est nous, on s'en rend bien compte puisqu'on accompagne des jeunes en situation de handicap qui ne veulent pas demander la RQTH. Mais c'est dommage parce qu'il y a un certain nombre de leviers grâce à cette RQTH. Et par exemple, je rebondis sur ce que vous venez de dire, Anne-Lise, cette RQTH donne depuis le 28 janvier 2016 aux travailleurs indépendants handicapés la possibilité justement d'être considérés, entre guillemets, un peu comme une EA ou un ESAT, puisque grâce justement à cette RQTH, leurs prestations pourront être transformées en unités bénéficiaires pour les entreprises pour lesquelles ils travaillent.
Donc ça veut dire qu'un photographe, par exemple, qui aurait la RQTH et qui serait de temps en temps pris par des entreprises, pourrait faire bénéficier l'entreprise de ces aides.
Absolument. Donc, évidemment, toujours dans une logique.
Mais comment il le précise ?
Alors, évidemment, on ne vend pas une RQTH. C'est comme les entreprises adaptées qui vendent le fait qu'elles sont entreprises adaptées. Il faut d'abord qu'elles proposent une prestation. Et puis qu'ensuite, si effectivement ça apparaît dans la relation, que la RQTH puisse être mise à disposition en tant qu'information pour l'entreprise. Si vous voulez, les travailleurs indépendants handicapés vont devoir faire la même chose que les EA, c'est-à-dire une structure de coût. Il va falloir qu'ils retirent les produits et services, enfin les produits plutôt qu'ils proposent à l'entreprise, de tout ce qui est prestations avant-vente. Et ensuite, ils transformeront cette part main-d'œuvre en unité bénéficiaire. Donc ça, c'est la même chose que sur les EA et les ESAT. Donc ça va être le même mode de calcul. Et les travailleurs indépendants handicapés devront envoyer à chacun de leurs clients en fin d'année, comme les EA et les ESAT, une feuille, si vous voulez, une sorte de facture représentant les unités bénéficiaires qu'ils auront générées pour leurs clients.
Bon, c'est très intéressant et très vaste. On fera une émission spéciale sur ce sujet-là, sûrement dans un prochain numéro de La Vie des Entreprises. Mais pour l'instant, on fait une petite pause en musique. On se retrouve juste après pour continuer à parler du baromètre que vous avez lancé du réseau Andy Réseau. À tout de suite.
Jusqu'à midi sur Vivre FM, La Vie des Entreprises, Anne-Lise Farcoa.
Si vous nous rejoignez à l'instant, sachez que nous sommes toujours dans la vie des entreprises. Jusqu'à midi, nous parlons des relations qu'entretiennent les entreprises avec le secteur protégé, en compagnie toujours de Dominique Dupaty-Declame, fondatrice du réseau Andy Réseau. Et nous parlons en particulier ce matin du baromètre que vous avez lancé récemment, levier de motivation des prescripteurs pour faire appel au secteur du travail protégé et adapté. C'était le premier baromètre, Dominique, vous nous l'avez dit. Hein. Oui, mais ça n'est pas le dernier.
Ça n'est pas le dernier. Justement, c'était un essai avec décision achat et cet essai a tout à fait bien fonctionné. On a eu un gros article d'ailleurs dans décision achat du mois d'avril et on se rend compte qu'il y a beaucoup d'autres choses à creuser, qu'on a quelques réponses, évidemment, parce que c'est un baromètre qui est assez vaste. Hein. On a eu quand même, comme je vous disais, 80 réponses très qualifiées sur une moyenne de 10 questions. Donc, on a quand même beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de matière.
Et qu'est-ce que vous allez en faire ?
Alors, on a deux idées. D'abord, parce que ça nourrit nos méthodologies. Hein, nous, Andy Réseau, bien sûr, hein, puisqu'on travaille de plus en plus avec les prescripteurs, hein, puisque moi, j'ai été acheteur et donc je sais à peu près aborder un prescripteur. On pense le proposer aux entreprises pour faire justement une sorte de baromètre interne. Et ça, c'est quelque chose qui commence à intéresser nos clients. Et d'ailleurs, le premier qui est dit OK, sur lequel nous avons fait un focus banque-assurance, ça a été BNP Paribas, grâce à Dominique Bellion, qui est la responsable de la mission handicap du groupe.
Et qu'on connaît bien ici.
Et qu'on connaît bien, voilà, qui est vraiment une de nos très charmantes clientes. Et qui nous a dit, mais voilà, ça c'est un baromètre, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup pour nos prescripteurs en interne. Et donc, merci de me faire un baromètre, enfin ce baromètre, avec un focus banque-assurance qui leur a donné effectivement pas mal de réponses.
Mais pour les personnes qui seraient intéressées, pour les responsables effectivement de Mission Handicap, pour les qui voudraient justement inciter plus les donneurs d'ordre à se tourner vers le secteur, vers le travail du secteur protégé adapté, est-ce qu'ils peuvent se fournir ce baromètre ?
Alors, si vous voulez, c'est un baromètre interne. Alors évidemment, on en donne certaines réponses, hein, puisque par exemple dans décision achat, il y a certaines réponses de ce baromètre. Mais nous, on serait plus d'accord de le mettre de le faire vivre plus en entreprise pour permettre justement aux donneurs d'ordre en entreprise de savoir comment développer ce genre d'activité vis-à-vis de leurs prescripteurs. On se rend compte aussi d'une évolution évidente qui a lieu depuis très peu de temps. Avant, c'était vraiment les missions handicap qui donnaient le « là » dans le fait de faire appel au secteur adapté et protégé. Et puis, c'est monté d'un cran, c'est la direction des achats maintenant qui travaille avec la mission handicap. Et là, c'est en train de remonter encore vers les prescripteurs. Et ce qui est intéressant, c'est que ça crée des trinômes, alors qu'avant, on ne voyait qu'une personne seule en train d'essayer de ramer pour développer ce secteur en interne. Et puis là, vraiment, c'est une histoire de groupe. Et évidemment, on est beaucoup plus fort quand on est nombreux. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des leviers de nombre sur le nombre d'unités bénéficiaires qu'on voit apparaître. Et ça, c'est vraiment un effet de groupe. On s'en rend bien compte dans le baromètre.
Alors justement, si on retourne vraiment vers les questions et les réponses étaient plutôt homogènes selon les groupes de personnes qui répondaient ou est-ce qu'elles étaient très diversifiées selon l'entreprise, selon la fonction de la personne qui répondait ?
Alors, ça dépend. Vous avez des réponses extrêmement homogènes, comme par exemple les meilleures actions destinées à booster le recours. Alors évidemment, c'est revenir sur le métier sans cesse, sensibiliser, informer sur ce que font les ESATEA, sur leurs particularités, mais aussi sur, par exemple, les potentialités que ces entités peuvent avoir. Donc ça, c'est quelque chose qui revient sans cesse, c'est-à-dire cette formation et sensibilisation qu'on peut faire sur le secteur. Mais par contre, vous avez d'autres choses qui sont un peu différenciées, comme par exemple certaines entreprises ne vont pas hésiter à faire des enquêtes internes pour valoriser des initiatives méconnues. Alors que ça, vraiment, ça appartient à une entreprise qu'on a interrogée, et toutes ne le font pas. Et puis, vous avez aussi certaines prestations que mettent en exergue l'entreprise à système, parfois Radio France, qu'on avait aidé à faire ce genre de prestations, c'est-à-dire des marchés de Noël avec des produits et des services originaux. Donc, vous voyez, il n'y a pas mal de choses qui sont
faites. Des marchés de Noël avec des tenues par des personnes en situation de handicap, ou est-ce que les produits seront fabriqués dans des ESAT et EA?
Alors justement, les marchés de Noël sont faits par des ESAT et des EA qui sont sélectionnés par l'entreprise ordinaire. Elle les accueille pour permettre à tout un chacun de pouvoir acheter sur ce marché de Noël. Hein. C'est comme tout un marché de Noël classique. Et donc aussi, elle mélange les produits et les services potentiellement utilisables par des acheteurs en interne, hein, évidemment, et puis des produits et des services utilisables par des salariés de l'entreprise. Donc ça fait un mélange et c'est intéressant parce qu'on voit le secteur d'une autre façon que uniquement la façon dont une entreprise seule peut se servir de ses prestations.
Alors, c'est très intéressant parce que ça, c'est très concret. Parce que effectivement, quand des salariés d'entreprise savent que le cocktail a été préparé par une entreprise adaptée, bon, bah voilà, c'est super, mais on ne les voit pas, les personnes, sauf peut-être quelquefois, on a un ou deux serveurs qui est là. Mais là, quand pendant je ne sais pas combien de temps durent les marchés de Noël, ça dure peut-être une journée, voire une semaine, et qu'on voit à la fois les personnes vendre et les produits, et on se dit, bah tiens, cette confiture, elle est aussi bonne que celle que j'achète dans mon supermarché, donc allons-y.
Voilà, et puis elle est peut-être aussi au même prix que...
Elle est peut-être au même prix, voilà. Elle est peut-être plus naturelle.
Exactement, et puis c'est vrai que les personnes de AESAT parlent avec beaucoup de passion de ce qu'elles fabriquent, hein, parce qu'elles sont portées aussi par... par leur productivité, hein, par la production aussi qu'elles offrent. Et donc, ça permet des échanges entre ces salariés ou usagers et puis les salariés de l'entreprise. Donc vraiment, ce sont des choses qui fonctionnent très, très bien en général.
Alors, concrètement, si on revient sur le baromètre, quels sont les points vraiment à retenir?
Alors, les points à retenir, c'est vraiment qu'est-ce qui va booster une entreprise. Alors là, je fais évidemment un raccourci puisque... le baromètre est très détaillé, mais qu'est-ce qui va booster? C'est justement, l'idée, c'est de travailler un peu en transverse. C'est ce que font d'ailleurs les achats responsables. On avait interrogé des entreprises qui nous ont dit les achats responsables, on fonctionne de la même façon, c'est-à-dire travailler en transverse, c'est évidemment les acheteurs et les prescripteurs en mode projet. Donc ça va être important. Et puis, on avait mis évidemment ne pas abandonner trop vite crampons, piolets et baskets, parce que c'est une course de fond et ça demande vraiment beaucoup de ténacité pour arriver à développer de manière pérenne des produits et des services avec le secteur adapté et protégé. On avait dit, bien sûr, pas de formule vraiment miracle, mais des formules sur mesure. Oui. Et c'est toujours ce qu'on dit dans tout ce mode projet qui nous tient à cœur. Et puis, bien sûr, mobiliser les directions générales, les COMEX, la communication interne. Donc, quand ça s'est mobilisé, comme a pu le faire, par exemple, la banque BPCE, qui a été très motrice dans ses achats, parce qu'elle développe des choses extraordinaires, eh bien, c'est parce que la direction a dit, maintenant, c'est un sujet d'entreprise. Et puis, bien sûr, il faut saisir la direction des achats centrales, en général, le siège ou la direction Europe, et donner une meilleure visibilité en interne par le biais d'outils peut-être un peu novateurs, parce qu'on trouve que voilà, c'est les marchés de Noël, c'est bien, les forums, c'est bien, tout ça, c'est bien, mais il faudrait trouver des choses un peu plus novatrices, et d'ailleurs, nous, on y travaille beaucoup.
Quels sont les freins qui restent encore, à votre avis, qu'il faudrait encore faire tomber? Comment faire tomber ces derniers freins auprès des donneurs d'ordre, justement?
Alors, il y a vraiment des freins de part et d'autre. Le premier frein, c'est l'entreprise ordinaire qui a peur de travailler avec un ESAT ou une EA, mais ça date depuis le début.
Par méconnaissance?
Par méconnaissance, oui. Et puis par peut-être mauvaise expérience.
Oui.
Moi, en tant qu'acheteur, j'ai toujours appris qu'est-ce que la négociation? La négociation, c'est tendre deux fois la main. C'est-à-dire, quand on a un échec, ne pas hésiter à retendre une autre fois la main. Et ça, c'est ce qu'on se rend compte ça dans les entreprises, c'est qu'elles sont capables de faire un premier essai, et si cet essai n'est pas concluant, elles ne feront pas le deuxième. Donc
non
ça,
seulement
c'est
avec l'entreprise avec laquelle elles ont travaillé, mais en plus avec toutes les entreprises du secteur.
Absolument.
Parce qu'ils vont se dire, c'est parce que c'était une entreprise adaptée que ça n'a pas marché, donc je ne travaille plus avec ce secteur-là. C'est ça qui est terrible.
Ouais. Voilà, donc
moi je dis... Comme vous le disiez, il y a une exigence encore plus importante.
Oui. Mettez à profit les méthodes de négociation, tendez deux fois la main, c'est-à-dire une fois, ça n'a peut-être pas très bien marché, mais essayez une deuxième fois et vous verrez, là, ça marchera. Donc d'abord, effectivement, ça, et puis le secteur s'appuie de moins en moins sur leur identité handicap, puisqu'elles montent de plus en plus en compétences et elles sont capables de faire 100% bonne qualité. Ça, on le sait, et de plus en plus, on a de très, très bons retours sur la qualité de ce secteur. Donc, je pense que ce sont et le secteur ordinaire non aidé et le secteur adapté et le secteur protégé et les entreprises adaptées qui, de part et d'autre, vont monter justement les unes, vont se faire monter les unes les autres en qualité et en communication.
En tout cas, les bonnes nouvelles quand même, Dominique, c'est que ça avance, ça progresse, ça évolue, les mentalités évoluent, les regards changent. Donc ça, c'est quand même des très bonnes nouvelles. Vous viendrez régulièrement nous en parler à travers toutes les manifestations que vous organisez. Merci beaucoup, Dominique Dubati de Clem, d'être venue nous voir ce matin. Merci beaucoup, Alim, d'avoir réalisé cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Toutes les informations, le podcast sur le vivrefm.com, rubrique La vie des entreprises. Très belle journée à tous sur Vivre FM dans quelques minutes d'infos, puis la suite de vos programmes. À très vite.
Vivre FM, podcast.